Bon réveil à tous, voici le journal de Catherine Dutoux. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La crise sanitaire et économique encore à la une ce matin. L'heure des comptes a sonné à proprement parler avec le troisième budget rectificatif présenté ce matin au Conseil des ministres et des milliards d'euros pour soutenir les entreprises et le pouvoir d'achat des Français. L'heure des comptes sur le terrain judiciaire également. En France et en Italie, des proches de victimes et des professionnels de santé veulent trouver des responsables à la crise sanitaire et notamment chez les politiques.
Entre émotion et revendication, les obsèques de George Floyd ont pris un tournant politique. Hier, aux États-Unis, nous serons sur place dans ce journal.
Et vous entendrez l'opposition en France qui s'étonne du silence d'Emmanuel Macron face à la multiplication des manifestations contre les violences policières et le racisme.
Et puis nous reviendrons sur le meurtre du Premier ministre de Suède Olof Palme en 1986 qui a traumatisé le pays autant que l'enquête l'a passionné. Le procureur spécial promet des révélations aujourd'hui.
Trop rapide ou trop prudent, le gouvernement fait face à des reproches contradictoires quant à sa gestion du déconfinement. C'est le thème du billet politique de Frédéric Seyss après ce journal. Quoi qu'il en coûte, avait dit Emmanuel Macron, le budget est donc rectifié une troisième fois pour répondre à la crise sanitaire et économique. 40 milliards d'euros d'efforts supplémentaires détaillés en Conseil des ministres ce matin, Marie Viennot.
Dans les 40 milliards mis en avant par le gouvernement pour ce troisième correctif budgétaire, il y a toutes les aides sectorielles annoncées depuis quelques semaines. 18 milliards pour le tourisme, 8 pour l'automobile, 15 pour l'aéronautique notamment. Mais ces montants ne sont pas que des subventions, il y a aussi des exonérations de cotisations, des prêts garantis. Et au total, les nouveaux crédits budgétaires alloués pour ce troisième projet sont de 13 milliards 600 millions d'euros, dont 5 milliards pour le chômage partiel. Outre ces aides sectorielles, ce troisième budget rectificatif intègre 1 milliard d'euros d'aides aux entreprises pour l'embauche des jeunes. Il met également en œuvre des décisions prises au niveau européen, mais aussi au niveau mondial, le FMI ayant besoin de nouvelles ressources pour aider les pays pauvres les plus en difficulté. Voilà pour les dépenses. Côté recettes, combien de TVA, d'impôts sur les sociétés, d'impôts sur le revenu en moins? On aura le détail dans la journée, mais ce sera pire que ce qui a été prévu à la mi-avril. À cette époque, le ministère des Finances tablait sur une chute du PIB de 6%. Il prévoit quasiment le double aujourd'hui, moins 11%, ce qui aura un effet quasi mécanique sur les recettes. Au final, le déficit de l'État pour 2020 serait de 11,4% du PIB. En 2009, le déficit public avait atteint les 7%. Or, c'était jusqu'à maintenant la pire année pour nos finances publiques. Ce record va donc être largement dépassé.
Ce troisième projet de loi de finances rectificative doit permettre, on l'a compris, de relancer des activités affectées par la crise sanitaire et économique depuis le mois de mars. Des aides très attendues, par exemple, dans le secteur thermal en Auvergne, dont dépendent 18 000 salariés. Les grands thermes qui rouvriront le 20 juin à la Bourboule estiment avoir déjà perdu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Le reportage de Benoît Bouscarel.
À la frontière entre les secteurs de la santé et du tourisme, les établissements thermaux ont déjà énormément souffert de la crise. Et ce sont les saisonniers qui sont les plus touchés. Au grand terme de la Bourboule, l'activité avait commencé cette année plus tôt que d'habitude en février, ce qui a permis aux 19 saisonniers déjà embauchés de bénéficier du chômage partiel au même titre que les 10 permanents. Pour les autres, 2020 sera beaucoup plus difficile. Lucie Brie est responsable des ressources humaines.
Au niveau des embauches, donc elles vont être d'une part restreintes et ensuite décalées. Cependant, on a quand même des embauches à prévoir pour répondre au référentiel du guide sanitaire.
Vous prévoyez combien de saisonniers cette année par rapport à une année normale ?
Peut-être bien un tiers de moins, malheureusement.
Ce qui représente entre 20 et 30 emplois en moins dans la saison qui vient. Pour faire face à la crise, les grands thermes de la Bourboule ont déjà bénéficié de reports de charges et d'un prêt garanti par l'État à hauteur de 575 000 euros. Mais il faut maintenant que les aides changent de nature, estime le directeur de l'établissement, Geoffrey Chalafi.
Je crois que ça sera difficile pour un secteur comme le nôtre qui a été fortement impacté, mais comme l'ensemble du secteur touristique. Si on reste sur de l'avance remboursable du prêt à taux zéro, ce n'est que remboursable. Je crois que dans certaines situations, si on veut relancer l'investissement, il faudra qu'il y ait de l'aide directe.
Geoffrey Chalafi l'avoue, rouvrir est un immense défi, autant sur le plan sanitaire que d'un point de vue économique. Mais la pression est là dans une petite ville, la Bourboule, 2000 habitants, où les thermes sont une locomotive dont il est évidemment très difficile de se passer. La saison sera d'ailleurs prolongée jusqu'en novembre cette année, sans que personne ne sache encore si les réservations suivront.
Et à elle seule, la crise dans le secteur du tourisme coûtera un point de PIB cette année à la France.
8h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Alors que l'épidémie de Covid-19 reflue en Europe, des citoyens veulent trouver des responsables à la crise.
Le parquet de Paris a annoncé hier l'ouverture d'une enquête préliminaire sur la gestion de la crise de la Covid-19 en France, avec des chefs d'homicides involontaires ou de mise en danger de la vie d'autrui. Cette enquête est une première réponse judiciaire à une quarantaine de plaintes, plus ou moins circonstanciées, reçues par le parquet de Paris pendant le confinement. Et puis en Italie, eux aussi demandent justice. Des citoyens de Bergame, en Lombardie, l'une des villes les plus touchées par l'épidémie de coronavirus, vont déposer aujourd'hui une cinquantaine de plaintes contre X. Ils se sont constitués en un comité baptisé Noi denunceremo, nous dénoncerons. Les familles des victimes de la Covid veulent savoir qui est responsable de la crise, Bruce de Galzin.
Cristina Longhini va porter plainte. Elle est pharmacienne, a vécu de plein fouet la crise sanitaire et a surtout perdu son père. Malgré les demandes de la famille, il a été pris en charge trop tard, sans place, en soins intensifs. Il est mort quelques jours après son arrivée. C'est Cristina qui l'a appris en appelant l'hôpital. Elle a même dû identifier le corps.
Quand j'ai vu mon père, j'ai eu du mal à le reconnaître. Son corps n'avait pas été nettoyé. Il avait un pyjama déchiré, plein de sang, les yeux grands ouverts, il pleurait du sang. Il avait la bouche ouverte. J'en ai fait des cauchemars pendant des nuits.
Le comité Noi denunceremo, nous dénoncerons, veut savoir qui a mal géré cette crise. Pas les médecins, non, les responsables politiques surtout. Aucun n'a cherché à rencontrer le comité. Le maire de Bergame, Giorgio Gori, souhaite, lui, une commission d'enquête de la région.
Malheureusement, il n'est pas sûr que cette commission puisse travailler, car la majorité politique de la région Lombardie s'oppose à ce que ce soit un membre choisi par l'opposition qui préside cette commission, comme le prévoient les statuts.
L'opposition, comme le comité Noi denunceremo, reproche à la région et à la ligue qui la dirige de ne pas avoir instauré de zone rouge dans la province de Bergame.
Et pour mieux se préparer à une nouvelle pandémie, plusieurs dirigeants européens, parmi lesquels Angela Merkel et Emmanuel Macron, ont demandé hier à l'Union européenne de tirer les leçons des insuffisances face à la Covid-19 qui a officiellement fait 184 256 morts sur le continent européen. Le patron de l'OMS estime, lui, que si la situation en Europe s'améliore, dans le monde, elle s'aggrave, principalement sur le continent américain et en Asie du Sud. En Haïti maintenant, 54 morts officiellement et 3 500 contaminations recensées, des chiffres peut-être sous-estimés car avec la peur de se déclarer malade, la situation sanitaire fragile et le manque de moyens, le sort d'Haïti inquiète les ONG Nathanaël Charbonnier.
L'argument le plus redoutable provient de Médecins Sans Frontières. Depuis que l'ONG a ouvert un centre dans le cœur de Port-au-Prince mi-mai, le nombre de cas positifs au Covid-19 s'est envolé, passant de 100 à des milliers. Mais s'ajoutent d'autres problèmes comme le manque de moyens ou encore le fait que les malades arrivent souvent trop tard pour se faire soigner. Hassan Issa, chef de mission à MSF en Haïti.
On voit quand même de plus en plus de malades qui viennent tardivement. Qui dit arriver tardive veut dire une mortalité quand même élevée. Et surtout, l'inquiétude, c'est par rapport à l'accès aux soins qui est très, très, très fragile. Et la difficulté, c'est que les malades risquent de mourir plus d'autres choses que de Covid-19.
Et pour comprendre cette situation, on peut ajouter pour certains la honte de se déclarer malade, la mauvaise distribution des masques, la méfiance vis-à-vis des politiques et de l'État. Conséquence, comme l'explique Pascal Adrien, habitant de Port-au-Prince, la prise de conscience sur la gravité de la pandémie a du mal à se faire.
Il y a une frange de la population qui ne croit pas vraiment que le coronavirus est une maladie qui existe en réalité. Donc il y a un déni en quelque sorte. Dans la réalité, les mesures ne sont pas appliquées.
Enfin, il faut dire aussi l'importance des croyances qui poussent certains à préférer se soigner avec des plantes locales plutôt que de se rendre dans les hôpitaux.
Et en France, un projet de loi sera présenté ce matin au Conseil des ministres pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet prochain. Aux États-Unis, George Floyd a été inhumé hier soir dans un cimetière du sud de sa ville natale à Houston, au Texas, un peu plus de 2 semaines après la mort de cet Afro-Américain de 46 ans, tué, je le rappelle, par un policier blanc. Plusieurs moments forts hier, dont le discours de la nièce de George Floyd.
Hello, my name is Brooke Williams.
Bonjour, je m'appelle Brooke Williams, la nièce de George Floyd. Et moi, je peux toujours respirer. L'officier qui l'a tué n'a présenté aucun remords alors que mon oncle se voyait quitter son corps. Il a supplié plusieurs fois. Arrête ! Mais l'autre a appuyé encore plus fort. Comment ce système peut-il être aussi corrompu et dysfonctionnel ? Les lois défavorisent les Afro-Américains. Il faut changer ces lois. Pitié, on ne veut plus de crimes racistes.
No more hate crimes, please.
Quelqu'un dit souvent rendre sa grandeur à l'Amérique, mais quand a-t-elle déjà été grande? Amérique. Il est temps que le changement arrive, même si cela nécessite plus de manifestations. Pas de justice, pas de paix.
La nièce de George Floyd, Brooke Williams, et le racisme qui se tente de se redéfinir aux États-Unis jusque dans les dictionnaires, celui de référence, le Merriam-Webster, va modifier sa définition du mot racisme sur suggestion d'une jeune femme noire qui voulait la voir mieux refléter son influence sur les populations visées en insistant notamment sur la notion d'oppression systémique. Alors que se tenaient aux États-Unis les obsèques de George Floyd, de nouvelles manifestations se sont tenues en France contre les violences policières et le racisme. 2400 personnes à Paris selon la préfecture de police, 12 000 selon SOS Racisme. Si le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner puis Édouard Philippe ont repris en main le dossier des violences policières, l'opposition s'étonne, elle, du silence du chef de l'État, Rosalie Lafarge.
Très à droite de l'échiquier, on aimerait bien que le président sorte de sa réserve sur le sujet. Ce silence est incompréhensible pour le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu.
Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron prend la parole lorsqu'on ne lui demande rien et sur des sujets complètement iconoclastes. Et que là où on attend qu'il protège les Français, qu'il donne un cap, il est absent.
Pire qu'absent, selon Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France.
Mais Emmanuel Macron a disparu. C'est surréaliste.
Jean-Luc Mélenchon chez les Insoumis, Christian Jacob pour les LR, Jean-Christophe Lagarde à l'UDI, Yannick Jadot du côté des Verts, tous s'étonnent de ne pas voir Emmanuel Macron prendre la parole.
Bon, écoutez, il doit parler, ça dépend pourquoi dire.
Les communistes Pierre Dharréville et Sébastien Jumel.
Vous savez, le président il parle beaucoup, hein. Il s'empare de tous les sujets quand ça lui chante, quand ça l'arrange un petit peu. Mais nous on n'est pas suspendus aux lèvres du président de la République. Ce qui est clair, c'est que le président de la République, comme le gouvernement, a été dans le déni.
Du côté de la majorité, on estime qu'il ne faut être ni dans le déni ni dans l'amalgame et surtout pas dans les postures ou l'instrumentalisation, ce que rejoint plus ou moins Guillaume Chiche, ancien marcheur devenu député écologie, démocratie et solidarité.
Je crois que la décision lui appartient au président de la République de prendre ou non la parole. Moi ce que je pense par rapport aux violences policières, c'est pas qu'il faut des prises de parole, c'est pas des grandes orientations. C'est des actes.
D'après l'Élysée, ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas encore exprimé que le président ne le fera pas au moment où il le jugera nécessaire. En attendant, Emmanuel Macron fait savoir qu'il ne néglige pas ce dossier, qu'il l'a pris en main ce week-end et qu'il délègue pour l'instant au gouvernement.
Les combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont tué 59 personnes hier lors d'une attaque contre un village d'éleveurs dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'annoncent des miliciens locaux et un responsable politique. Amnesty International accuse des soldats des armées de trois pays du Sahel de semer la terreur dans les villages où ils ont causé la mort ou la disparition de près de 200 personnes en quelques mois. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger mis en accusation par Amnesty. Nous partons maintenant en Suède, où tout le monde attend aujourd'hui une conférence de presse décisive. 34 ans après l'assassinat d'Olof Palme, le premier ministre suédois, un procureur devrait faire ce matin des révélations importantes sur son meurtrier et ses commanditaires. Cet attentat avait été un moment important dans l'histoire de la Suède, tant Olof Palme, une des figures de la social-démocratie, était une figure majeure et controversée dans la vie politique. Sa mort avait provoqué la stupéfaction de la société suédoise et un traumatisme profond. La correspondance à Stockholm de Frédéric Faux.
Ces réactions ont été recueillies juste après la mort d'Olof Palme sur la scène de crime.
C'est tellement incroyable qu'on ne réalise pas que c'est arrivé.
C'était la pire chose qui puisse arriver à la Suède. Je n'ai rien d'autre à dire. Je suis choqué et je ne pensais pas qu'on pourrait voir ça à Stockholm.
Des témoignages qui montrent bien la stupeur des Suédois. Leur premier ministre est abattu en février 86, au centre de Stockholm, alors qu'il sort du cinéma avec sa femme. Cet homme de gauche charismatique est alors l'incarnation de la social-démocratie en Suède, et il a beaucoup d'ennemis potentiels. Il est contre l'apartheid en Afrique du Sud, contre l'énergie nucléaire, pour Fidel Castro. L'enquête sur sa mort a duré 34 ans, jusqu'à aujourd'hui, avec plus de 10 000 personnes interrogées, sans grand résultat. Alors les annonces du procureur Christer Pettersson, évidemment, vont être suivies par tout le pays. Car selon la presse suédoise, la main derrière l'assassinat d'Olof Palme pourrait être celle de l'Afrique du Sud. L'hypothèse n'est pas nouvelle. Palme était l'un des leaders de la coalition internationale contre l'apartheid et un soutien affiché de l'ANC, l'opposition noire. La piste a déjà été évoquée en 96, quand des policiers sud-africains témoignant dans un procès avaient listé parmi leurs divers forfaits la mort d'Olof Palme. Ce sont des voyages récents d'enquêteurs en Afrique du Sud qui auraient permis de confirmer ces témoignages et même de retrouver l'arme du crime.
Frédéric Faux à Stockholm pour France Culture. En bref encore, un ours a été tué par balle hier en Ariège. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, indique que l'État va porter plainte. Et puis avec la fin du confinement, la pollution de l'air a de nouveau atteint ses niveaux habituels pour un mois de juin en Ile-de-France. C'est ce qu'indique ce matin l'association Air Paris. C'est le cas aussi bien pour les oxydes d'azote qui sortent principalement des moteurs diesel que pour les particules fines ou le CO2. Le même constat a été fait également dans d'autres régions comme en Nouvelle-Aquitaine. Quelques mots du temps de ce mercredi 10 juin variable avec des passages nuageux, des éclaircies et même des averses sur une grande partie de l'Hexagone. Au meilleur de la journée, il fera 17 degrés à Lorient, 19 à Dax, 20 degrés à Mulhouse et à Lyon, 21 à Paris et à Périgueux, 23 degrés à Marseille. Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.